Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Littérature et bière glacée.
Grande Fleur Café.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grande Fleur Café par Hugues Robert.
Bonsoir, très heureux de vous retrouver ce soir au Grande Fleur Café. Chez Grande Contrôle, cette semaine, c'est le début d'une séquence d'une douzaine de jours, en fait. On va parler beaucoup de sorcières. Il y a une exposition qui démarre aujourd'hui sur la revue Sorcière, maintenant disparue, mais qui pendant 10 ans, en fait, a rassemblé des choses très, très étonnantes. Donc, surtout, venez voir cette exposition. Et on a la chance aujourd'hui, dans le Grande Fleur Café, d'avoir avec nous Céline Minard. Céline Minard qui connaît bien la sorcellerie. elle sourit tout de suite parce que c'est très bien que je vais la taquiner un peu sur ça. Et on en reparlera tout à l'heure, mais qui vient de sortir un tout nouveau roman magnifique qui s'appelle Bacchante, donc qui ne parle pas expressément de sorcière, mais c'est un roman très rusé. Il y a bien entendu des histoires quand même de sorcellerie sous une forme ou une autre. Céline Minard, il y a de ça quelques années, en fait, était venue à la librairie Caribbe dans un bel exercice qui s'appelle Libraire d'un soir, où en fait quelqu'un qu'on aime bien, donc ça peut être une autrice, un auteur, un éditeur, une éditrice, vient parler de livres qui ne sont pas les siens. Et elle avait donc choisi 7 livres, alors des choses assez incroyables. Il y avait Seychonagon, il y avait Jérôme Rottenberg, il y avait Baltouchis, Vladimir Sorokine, le monstrueux La Tourmente, il y avait Marianne Haushofer, il y avait Sylvie Dunson-Warner, et il y avait Jeanne Favret-Saada. Et Céline nous avait parlé de Décorcelé, et c'était absolument passionnant. Donc, à propos de tout ce qui fait que les sorcières sont dans l'air du temps, alors pas depuis hier, ni même depuis avant-hier, mais les sorcières envahissent à la fois la pop culture depuis au moins une quinzaine d'années, et sous forme de métaphores de plus en plus aiguës, de plus en plus pointues, irriguent aussi tout un tas de nouvelles formes de militantisme féministe. On va essayer d'évoquer tout ça un peu au pas de charge, parce que vous savez que le Grande Fleur Café, c'est court. Donc bonsoir Céline.
Bonsoir Hugues.
Est-ce que tu nous parlerais en fait de la façon dont Jeanne Favret-Saada, enfin, et cette sorcellerie-là, cette sorcellerie dans le bocage, en fait, comment tu l'as rencontrée, comment tu t'es appropriée, en fait?
Je ne sais plus très bien comment j'ai lu, en fait, le premier texte que j'ai lu de Favret-Saada, c'était Les mots, la mort, les sorts. C'était un titre que j'avais vu passer en librairie des années avant de m'en saisir et de le lire. Mais bref, j'ai fini par le faire et j'ai trouvé ça effectivement passionnant. Donc c'est une étude d'ethnologie et Favret-Saada, qui n'est pas du tout normande d'origine, va dans le bocage dans les années 70, je crois, donc assez récemment quand même, enquêter, mais vraiment faire une enquête de terrain sur... les pratiques de sorcellerie, mais il se trouve qu'elle a évidemment beaucoup de mal à tomber sur des gens qui lui disent « bah oui, on a été ensorcelé ou non, ou qu'est-ce que c'est que ça ?» Enfin, il y a énormément de méfiance, évidemment. Et donc, elle va commencer à en entendre parler par à l'envers, en fait, en rencontrant des gens qui veulent être désorcelés et pas qui veulent jeter des sorts. Donc, c'est comme ça qu'elle commence à donc, pas vraiment entendre parler de ces phénomènes, parce qu'il y a quelques indices ici et là qui lui disent que oui, c'est bien un territoire propice. Mais c'est avec la désorceleuse qu'elle va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Voilà.
Alors, une chose très étonnante dans ce que tu nous disais à ce propos, c'est que donc Jeanne Fabre-Sada, qui est effectivement à ce moment-là une ethnologue expérimentée déjà, hein, qui a parcouru d'autres terrains, effectivement pas du tout en Normandie, plutôt en Algérie par exemple, et qui est une scientifique expérimentée, qui connaît tout du manuel d'ethnologie sur la façon justement de pratiquer l'observation participante, mais de ne pas se laisser entraîner en fait par son terrain, et peu à peu, et ce sera flagrant donc quand elle se repenchera sur ça 20 ans plus tard, il y a quelque chose qui se passe, justement, son esprit rationnel, disant, bon, c'est des pratiques, c'est des rituels, mais il y a un doute qui commence à s'insinuer, et il y a quelque chose qui se passe.
Hein. Il y a un doute, c'est-à-dire qu'il y a des effets, et elle n'est pas dans le déni scientifique, c'est effectivement quelqu'un qui est formé à l'ethnographie, comment on doit la faire. Enfin, elle a appris à le faire. Il y a des outils, évidemment, un champ expérimental, des précautions conceptuelles et des précautions tout court. Mais elle se rend compte que ça a des effets sur son psychisme, sur sa vie, et que à son corps défendant, elle est prise dans ce tissu. Parce que c'est un tissu, la sorcellerie. C'est pas un sorcier et une victime à désorceler, pas du tout. C'est une trame. Ça peut pas marcher n'importe où et ça marche tant que tous les acteurs sont présents pour que ce tissu soit là et opérant. Et souvent dramatique, hein, de façon dramatique. Et donc elle prend conscience qu'elle est elle-même prise petit à petit dans ce tissu-là. Et elle écrit en parallèle au mot La mort, les sorts, un journal qui est aussi... Elle est en analyse par ailleurs pendant qu'elle fait ces enquêtes-là, et elle se rend compte comment tout est intriqué. Et donc elle tient ce journal pour rendre compte aussi de ça, du fait qu'il n'y a pas de témoins ou de questionneurs ni inactif, ni intouchable, ni intouché, quoi, ni intact. Donc voilà. Et en fait, ça lui permet aussi de penser ou de penser autrement la position du scientifique.
Le travail en fait de Fabrice Saada, enfin, est quelque chose qui est bien connu, mais dès qu'on aborde ces questions de sorcières, je pense qu'on n'en parle jamais assez, parce qu'on est aujourd'hui dans un télescopage entre une image de la sorcière historique, sans revenir sur l'imposture volontaire ou involontaire, on ne saura jamais exactement, mais celle de Jules Michelet en fait, qui se basant sur des sources totalement inventées, écrit donc en 1860 peut-être le livre le plus célèbre sur la sorcière, mais qui est un tissu d'ânerie, d'invention, d'approximation, et il faudra presque, c'est ça qui est incroyable, le prestige de Michelet et puis le un peu la flemme quand même, hein, des lectrices et des lecteurs au fil des années, fait qu'il faudra presque un siècle pour que, bien qu'un paquet de scientifiques et d'historiens sérieux soient exprimés sur le sujet, pour dire non mais c'est un tissu d'ânerie, enfin c'est du folklore en réalité, c'est pas de l'histoire.
Ouais.
Mais il y a donc tout ce courant d'études sur la sorcellerie, alors au Moyen-Âge, mais surtout à la Renaissance, avec les procès en sorcellerie. Il y a le fabuleux travail de Carlo Günzig sur les procès, justement, sur la méthode pour faire avouer les sorcières au plan juridique. Chose dont s'est emparé il y a quelques années un grand écrivain qui, en même temps, a un sens de l'humour complètement forcené, qui est James Morrow, et qui, écrivant un livre qui s'appelle Le dernier chasseur de sorcières, s'empare d'un fait historique anodin, si on veut, qui est que, en fait, la dernière sorcière à avoir été juridiquement, enfin, condamnée et brûlée en Angleterre, c'est quand même en 1709. Donc, c'est pas au Moyen-Âge. Hein,
non.
À partir de ça, il fait tout un travail, se montrer à quel point il y avait un enjeu idéologique extrêmement fort autour de, justement, de ne pas laisser... alors même que la plupart des gens, en 1709, en réalité, étaient assez convaincus que, bon, il n'y a pas vraiment de sorcières, enfin, au sens, justement, pittoresque et dramatique du terme. Mais il y a eu toute cette veine, et puis il y a ensuite les sorcières, des contes, hein, les sorcières des légendes, qui peuvent être terribles, qui peuvent être... des présences maléfiques. Et tout ça, effectivement, irrigue toute une culture. Enfin, c'est comme ça qu'on connaît les sorcières. Ça commence souvent par la sorcière du placard à balai. Mais il y a des sorcières beaucoup plus sérieuses aujourd'hui dans la culture qui arrivent. Alors, très récemment, cet automne, Mona Chollet a fait une très belle recension chez Zone. Donc, un ouvrage qui s'appelle tout simplement Sorcières et qui, à partir des figures et des destins de trois sorcières historiques avérées, si j'ose dire, fait vraiment une synthèse du sens contemporain de la sorcière, à la fois une victime absolue et puis une rebelle obstinée. C'est vraiment, il y a ces deux facettes. Avant qu'on continue, en fait, c'est ça que je voulais savoir. Donc, toi, la figure de la sorcière, comment tu l'as approchée, intégrée, dissimulée, plus ou moins visiblement, dans certaines de tes œuvres?
Mes héroïnes sont souvent magiques. Est-ce qu'elles sont sorcières? Oui, certaines. Mais c'est vrai qu'elles ont toujours un côté... elles sont souveraines, mais elles sont magiques. Il y a quelque chose qui chez elles... déborde la rationalité d'une façon ou d'une autre. Ça passe parfois par l'alcool, souvent d'ailleurs. Mais effectivement, dans Faillir être flingué, il y a une chamane. Alors, c'est les plantes, c'est les soins, c'est tout ça. Et dans Solong Louise, il y a des choses un tout petit peu plus inquiétantes quand même. Il y a des danses qui sont connues, il y a quand même une espèce de soirée sabbatique où il faut embrasser le cul du bouc comme ça se fait
dans les sabbats.
Voilà, c'est bien tenu. Et où après il y a toutes ces danses très très moyenâgeuses qui ressortent très très archaïques. Et puis il y a des recettes effectivement. Moi j'avais été très très intéressée par le livre de Ginsburg, le sabbat des sorcières. Et où ce qui est, parce que il y a toute une imagerie aussi de la fête, du débordement, du carnaval presque, de l'inversion des valeurs, de l'arrivée du bouc, donc du diable, tout ça, et puis d'une espèce de révérence et de grande fiesta autour de ça. Je crois que ma première sorcière, je l'ai rencontrée vraiment littéraire, disons, qui m'a vraiment intéressée, c'était dans Thompson Warner, dans Laura Willows. Il y a là, à un moment, parce que tout est très anglais, très machin, très cottage, très, très, très normal, une grande normalité qui pète à un moment, enfin qui pète très vite d'ailleurs, mais qui pète tellement doucement, tellement d'une façon tellement anglaise, so British, mais tellement profonde. Et dans ce livre-là, il y a une très belle, il y a un bal, en fait, à la campagne. Et la narratrice voit les choses pas tout à fait d'une façon plate, disons. Et en fait, ce bal est un sabbat. Et ça passe dans le texte par des choses assez petites, assez minuscules, assez gracieuses, assez dérangeantes aussi. Et je crois que c'est ça, la première sorcière que j'ai, où je me suis dit « Ouh, qu'est-ce que c'est intéressant !» Parce que cette narratrice, c'est une vieille fille qui décide un jour de s'en aller de chez sa sœur. Elle en a ras-le-bol avec qui elle vit, avec son beau-frère. Et elle leur dit, mais non, mais c'est bon, je vais me louer un petit cottage là, je sais pas où, dans la campagne, et puis je vous laisse tranquille. Alors, grande révolution, elle n'a pas le droit de faire ça, etc. Donc c'est juste, elle est en rupture de comportement, de bon comportement. Elle a fait juste un pas de côté. Et il n'est pas énorme. Et à partir de là, voilà, c'est son chemin vers l'émancipation, évidemment, mais d'une façon comme ça, un tout petit peu, un peu inquiétante. Et Thompson Warner, par ailleurs, a écrit plein de nouvelles au cours de sa vie, et dont un recueil s'appelle Le Royaume des Fées, et où elle parle des fées, et les fées pouvant être masculines ou féminines, en fait, tout ça, c'est des... Et franchement, c'est des fées très noires, très joueuses, très noires, très... très 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 cruel parfois, mais sans le savoir, et c'est magnifique. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça a été un de mes terreaux. Après, plus historiquement, j'avais regardé donc ce sabbat des sorcières de Ginsburg en étant très intéressée par cette histoire d'Ergo du seigle qui serait donc une espèce de champignon qui se met sur le blé quand il est mal conservé, et qui provoque des hallucinations et surtout ce phénomène de quitter son corps pour voyager dans la contrée.
C'est Claro qui nous avait fait une immense description de ce phénomène au début de Tous les diamants du ciel il y a quelques années.
D'accord.
Je me souviens, ouais, en fait, Tous les diamants du ciel, c'est trois parties, en gros, qui sont liées hein, par une intrigue assez, assez rusée. Mais la première partie, c'est en fait l'accident de Pont-Saint-Esprit en 1951, où il y aurait eu l'intoxication de toute la ville, quasiment, à l'Ergot de Seigle, par une boulangerie. Sachant que peut-être, les archives de la CIA ne sont pas encore ouvertes à propos de cet épisode, mais ça aurait pu être une expérimentation de LSD.
Ah, ok. Bah, de toute façon, ça n'a pas l'air très loin comme effet. Hein. Mais, et Ginsberg dit que en fait, il y a eu des périodes d'intoxication de toute une population. Donc c'est pour ça que les archives aussi dont il s'empare se recoupent. C'est qu'à un moment, telle et telle personne de tel village, enfin tout le monde était un peu complètement défoncé. Quoi. Mais le truc, c'est qu'ils décrivent des choses qui s'appellent des batailles nocturnes. C'est absolument génial. Où ils se battent avec des trucs de canne à sucre, enfin, c'est des vraies batailles, quoi. Et dans le ciel, hein, en volant, tout ça, en courant par terre. Enfin, et les descriptions sont cohérentes entre les différentes personnes interrogées. Donc, on se demande enfin, si c'est une hallucination collective, s'il y a quelque chose d'autre. Si... En tout cas, ça m'avait absolument passionné.
C'est des choses qu'on retrouve d'ailleurs dans les grandes études historiques sur le vaudou haïtien, par exemple, et dans l'ensemble de tout ce qui traite de la sorcellerie antillaise. Et il y a un très beau texte en fait, qui est sorti il y a quelques mois, et je le mentionne hein, au passage, donc de Katie Stewart, qui s'appelle « Confession d'une séancière ». D'ailleurs, intéressant qu'en créole martiniquais, en fait, la sorcière n'est pas une sorcière, mais une séancière. Et donc qui pratique la quimboiserie. Et donc c'est un ensemble de situations qui viennent toutes de contes traditionnels martiniquais, mais qui les réadaptent en fait à une situation totalement contemporaine et où on trouve effectivement des enjeux, certes médico-sociaux, mais aussi des enjeux politiques, des enjeux émancipateurs, enfin, des enjeux des rapports hommes-femmes de façon flagrante. Enfin, et c'est très vivant, quoi. Donc c'est très, très actuel, ces batailles nocturnes.
Oui, mais de toute façon, c'est politique, ces histoires de sorcières, effectivement. Quoi. Je pense que si ça revient, c'est parce que c'est aussi une façon de prendre l'étiquette négative et de se la coller sur soi-même pour la retourner positivement et la revendiquer. C'est toujours ça.
Oui, je pense que tout l'enjeu de cette belle collection là, qu'on évoque hein, pendant toute cette semaine, de la collection donc, Isabelle Cambourakis a créée chez l'éditeur du même nom il y a 3 ans, qui s'appelle Sorcières, qui regroupe un ensemble de textes dont certains ne parlent pas de sorcellerie stricto sensu, mais soit de sorcellerie effectivement, en jouant avec, comme tu le disais, le contenu politique en fait de la notion même de sorcellerie, avec son côté métaphorique, avec son côté féministe émancipateur, et on y trouve des textes assez incroyables, hein, comme notamment de Starhawk, Rêver l'obscur, femme, magie et politique, qui est un des textes peut-être qui a le plus influencé les mouvements contemporains de résistance altermondialiste au quotidien. Enfin, et, alors que c'est quand même un texte qui parle effectivement de sorcellerie contemporaine. Enfin, on va y trouver aussi des textes comme celui de Bell Hooks, Ne suis-je pas une femme, qui prend en fait l'exemple de, enfin, puisque c'était une interrogation lancée en 1851 par une esclave qui à ce moment-là était affranchie, Sojourner Truth. Et Bell Hooks, donc l'activiste américaine, elle y invente une nouvelle voie. C'est en 1981, donc c'est une voie qui est critique aussi bien du féminisme blanc que des mouvements de libération noire, entre guillemets, masculins. Pour dire qu'il y a une spécificité de la femme noire hein, qui n'est pas du tout prise en compte et qui se fait en fait écraser à l'intérieur de d'autres libérations. En fait. Et donc il y a un aspect effectivement de chercher dans la sorcière un peu une figure ultime de réprouvée, mais qui, comme tu l'indiquais, se retourne en fait et devient assez conquérante en fait. Un autre aspect peut-être qui était présent dans... il y a des sorcières qui ne se montrent pas en tant que sorcières nécessairement, enfin, mais qui pratiquent quand même quelque chose d'occulte, hein, c'est-à-dire qui ne nous révèlent pas tout ce qu'elles savent. Et là, je pense à deux héroïnes qui, justement, je pense qu'on ne peut pas les identifier a priori comme sorcières chez toi, qui est l'une de celles de Bastard Battle et celle du Grand Jeu, en fait. normalement, on ne dira pas ce que sont des sorcières. Hein. T'es d'accord. Et pourtant, il y a quelque chose de soigneusement occulte dans ce qu'elles font.
Dans Bastard Battle, là, que tu penses ?
Je pense à la combattante...
À la démon.
Ouais.
Oui, bah parce qu'elle s'appelle démon, mais ouais. Elle s'appelle démon parce qu'elle est jaune, parce que c'est une asiatique et qu'ils n'ont jamais vu ça à Chaumont, 15e siècle. Donc ils se disent, oh là là, elle est jaune et en plus elle a le pied fourchu puisqu'elle elle porte ses chaussettes avec juste le doigt de pied à part. Donc évidemment, un pied fourche, c'est tout de suite le diable. Donc, c'est la démone. Elle est sorcière parce qu'elle est très technique, en fait. Je pense que les sorcières, c'est celles qui savent, où elles ont le savoir médical,
C'est là que je voulais en venir.
Où elles savent se battre, mais elles savent. Ce sont des femmes savantes, effectivement, oui. Et la vipère d'Untoise, en plus, comme elle s'appelle vipère d'Untoise, il y a un peu de venin là-dedans. C'est pas, effectivement, ça peut être assez sorcier. Et dans le grand jeu, je pense que le effectivement, Dongbin, décidément, les Asiatiques sont très sorcières chez moi. Et elle est pas nette, oui. Parce que je sais pas si elle se transforme pas à un moment en marmotte. Pour pouvoir re-rentrer dans la cabane ou vivre sa vie comme ça, quoi, tranquillement. Et elle a, elle aussi, connaissance de substances étonnantes, puisque la narratrice, à un moment, boit quelque chose de très, très clair, comme du saké, mais apparemment, c'est plus fort que le LSD, donc... C'est pas voilà et puis elle a des espèces de visions hein et puis effectivement cette Dongbin elle fait des choses physiques un petit peu extrêmes elle grimpe d'une façon très un peu trop aisée pour être tout à fait naturelle.
Mais on rejoint par là, effectivement, là, il y a une présence, un doute réel de surnaturel, mais on rejoint le fait que s'en approche d'autres héroïnes qui sont autour, la narratrice qui s'en approche d'une certaine façon, à la fois par les breuvages, mais par l'extrême technicité en fait, qu'elle met, justement, il y a ce côté rituel technique, en réalité, et qu'on retrouve dans l'héroïne de Kata, enfin, ou l'héroïne ou le héros de Kata, puisque c'est...
On ne sait pas.
On ne sait pas.
Oui, c'est vrai que la technicité peut avoir, quand elle est vraiment poussée à loin, quoi, peut avoir cet effet de magie, en tout cas de. Mais ça, parce que ça a un effet sur le réel ou parce que c'est de l'ordre du rituel, parce que c'est aussi peut-être de l'ordre du conjuratoire aussi, quand la mise en place technique doit suivre un certain nombre de. Tu vois, correspondant à une checklist très très précise, dans un certain ordre, dans un... Oui, on peut parler de rituel, effectivement. Et c'est un rituel d'assurance ou de réassurance. Mais il est pas magique. Il est très, très lié au risque réel et à la difficulté physique, enfin, pour l'alpinisme en tout cas.
Mais il y a un personnage que j'ai toujours trouvé fascinant et qui je trouve à la charnière en fait des années 90-2000 en fait enfin 2000 en fait plus exactement représentait bien cette émergence d'une nouvelle figure quand même de sorcière, c'est le personnage de Willow en fait dans Buffy The Vampire Slayer qui est un personnage je le résume très rapidement mais parce que c'est marrant parce que cette série est quand même une série qui a eu un énorme impact en tant que série culte quoi et même si au départ c'est censé être une série pour ados enfin et en fait c'est pas du tout que ça enfin c'est plein de choses Buffy mais donc ce personnage de Willow qui est le deuxième personnage peut-être le plus important de la série après Buffy si on veut est au départ une bonne élève un peu effacée au lycée, timide, et puis qui, peu à peu, par en fait l'apprentissage de la magie, change complètement de nature jusqu'à devenir, énorme spoiler pour les 5 premières saisons, désolé, jusqu'à devenir dans la saison 6 le principal méchant, parce qu'en fait, ayant acquis une telle maîtrise de la magie, à un moment, il y a un déclic qui se produit, qui en fait, elle est tellement agressée de façon tellement violente, en fait, par trois gamins, enfin trois ados, extrêmement cruelle et débile. Enfin, vraiment, la figure même des atroces du geek de lycée dans ce qu'il peut avoir de pire. Et donc, face à une agression, elle se met en colère, si j'ose dire. Et par cette colère sans limite, en fait, elle bascule dans le personnage, en fait, pour un certain temps, qui s'appelle Dark Willow, où elle est, en fait, à la fois la sorcière la plus puissante du monde, presque sans limite, il n'y a quasiment rien qui peut l'arrêter. Elle en est à détruire le monde. Et c'est quand même incroyable qu'en quelques dizaines d'épisodes en fait, d'une série pour teenagers, on passe à quelque chose où il y a cette figure qui se met à envahir la scène, presque jusqu'au bout. Et c'est très fascinant de voir le développement de ce personnage, qui est celui qui change le plus en fait, dans toute la série. Quoi.
Eh ben, quand on commence à mettre des sorcières en se disant oh, « ça fait joli, il faut se méfier parce que ça va prendre une ampleur terrifiante
». Alors, on va faire une brève pause musicale avant de creuser en fait ton dernier roman, donc qui ne parle pas de sorcière, nous sommes bien d'accord, mais qui en parle aussi d'une certaine façon, donc Bacchante. Et donc avant ça, on va écouter une chanson qui s'appelle Season of the Witch, effectivement, et non pas la version de Donovan qui est jolie mais un peu lente, mais plutôt celle de Hall, donc de Courtney Love.
I see thousands of people staring back at me, and it's strange. You got to pick up every step. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Yeah, 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 yeah. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch. Must be the season. Pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch.
Café. Les coups de cœur du libraire.
Et donc, on continue avec ce roman qui est sorti il y a quelques semaines, presque quelques jours, en fait, donc chez Rivage, Bacchante, qui est un roman court, intense. Alors, je vais essayer de ne pas révéler des choses absolument dramatiques en termes d'intrigue, mais qu'on puisse quand même évoquer quelques points clés. Bacchante, il est emblématique à nouveau, ce roman. Enfin, moi, c'est une chose que j'adore dans ce que fait Céline Minard, dans ce que tu fais, c'est que... Tu as quand même une capacité rare pour t'emparer en fait d'une thématique, d'un genre, on a vu le western, le film d'arts martiaux, enfin. Et puis tu le décortiques, tu le retournes et tu en fais quelque chose qui est à la fois magnifique dans le genre et puis qui apporte complètement autre chose. Là, avec Bacchante, on va se dire au départ, c'est de saisir en fait le roman, le film de Casse, le film de cambriolage. Et sachant que d'emblée, en fait, tu le retournes de plus d'une manière, puisque par rapport à... Alors, en même temps, oui et non, je dis ça, mais c'est vrai que dans les bons films de casse, la question de la exit strategy, de toute façon, est toujours un des points clés. C'est-à-dire que c'est pas tout de rentrer dans la chambre forte, il faut pouvoir en partir, et si possible, avec ce qu'on est venu chercher. Mais là, effectivement, tu nous mets dans les premières pages, en fait, les cambrioleurs, qui sont des cambrioleuses, ça on peut le dire, on le saura très vite, sont installés dans la chambre forte. Alors, qui n'est pas une chambre forte de grand casino à Las Vegas, qui n'est pas une chambre forte de la réserve fédérale américaine, qui est une chambre forte qui contient du vin, des alcools, des grands crus, des bouteilles rares qui sont confiées en fait par des collectionneurs, par de riches collectionneurs, vu le prix des bouteilles. Et là-dedans, on nous apprend très vite qu'il y en a pour à peu près 350 millions de dollars et qu'il y a certaines bouteilles qui sont résolument uniques, qui sont les dernières de leur espèce. Donc, il y a un enjeu financier symbolique qui est largement comme celui d'une réserve d'or. Donc, moi, ce qui me fascine tout de suite, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur une chambre forte pleine de vin, quoi. Enfin, d'alcool.
Surtout de vin, quand même. Vin, oui. Même s'il y a quelques bons whisky et quelques bonnes poires et quelques bons spiritueux.
Il y a quand même de la poire, oui.
Oui, il y a de la poire. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Le vin, je pense. Je ne sais pas, je devais avoir envie de boire un coup. Je voulais faire un casse, je voulais refaire un casse, parce qu'il y en a quand même aussi quelques-uns dans ce Longue-Louise, des casses. Mais je voulais en faire un bien, complet, quoi, tu vois. Et je voulais braquer du liquide, mais je voulais pas du tout. Je voulais surtout avoir affaire à un produit qui se détruisait quand on en usait, quand on l'usait pour ce pourquoi il était fait. Voilà. Donc le vin, c'était parfait, puisque il ne vaut comme valeur d'échange. Que lorsque la bouteille est fermée et qu'elle a encore son étiquette, souvent. Enfin, il faut surtout que la bouteille soit fermée. Donc là ces trois femmes qui rentrent dans ces bunkers, ces chambres fortes, elles peuvent effectivement mettre la pression sur le fait qu'elles sont en mesure de profiter de ce qu'elles sont venues piller tout de suite. Qu'elles sont absolument pas du tout obligées de sortir pour boire un coup.
Elles peuvent le boire sur place.
Et alors voilà. On ne sait pas. Voilà, à l'extérieur, ils savent pas si elles sont là pour y rester, si elles sont là pour prendre des choses et partir, ou si elles sont là pour tout faire péter. Voilà. Mais c'était le paradoxe de ce qui est conservé là par les collectionneurs et par le collectionneur de collectionneurs, qui est le propriétaire de la cave.
Ethan Kutzer.
Voilà. Le paradoxe du vin, en fait, c'est-à-dire que si on l'utilise, on le pisse. Et ça vaut plus rien.
Effectivement, c'est une bouteille de Romanée Conti, je crois, qui voit tout de suite. Enfin, c'est la première à voir son usage justement détourné. Enfin, donc à avoir été consommé, puis ensuite.
Oui.
Retourner en fait.
Retourner à l'envoyeur, ouais. Sous une forme un peu transformée, effectivement. Mais effectivement, le breuvage là, il peut être sorcier, puisque l'alcool, ça a des effets étonnants, et qu'on ne sait pas comment elles sont rentrées, et c'est peut-être là l'endroit d'une certaine sorcellerie, parce qu'elle parle à un moment de charme, qui leur ont permis de pénétrer dans cette chambre forte. On n'en saura pas vraiment plus.
Non, tu nous laisses des indices, mais qui sont disséminés, mais il n'y a pas d'explication évidente, en tout cas.
Non, c'est pas évident.
Mais ceci dit, quand on regarde, même pour la deuxième ou troisième fois, pour les gens qui sont un peu obsessionnels, qui regardent les films plusieurs fois, quand on regarde la série des Oceans, par exemple, c'est pas toujours évident du premier coup de saisir exactement comment ils s'y sont pris, même si pourtant ils nous expliquent, ils nous mettent les cartes sur la table, mais il y a des non-dits, il y a des petits passages délicats ou des angles morts. Et là, effectivement, à la fin, on sait bien. Je ne sais pas en fait, mais on se dit qu'il n'y a pas une magie quand même.
Non, il n'y a pas eu de magie, mais il y a eu quelque chose qui n'est pas comme d'habitude et qui n'est ni une perceuse, ni un bulldozer, ni quelque chose de très de violent. Ça n'est pas forcé.
Bon, il y a des rats quand même.
Ah ben, il y a un rat, mais lui, il intervient une fois qu'elles ont pénétré dans les lieux pour faire ce qu'il a à faire et qui est très important.
Je trouve que c'est un personnage formidable, ce rat. ce rat des mineurs, on peut dire que c'est un rat des mineurs.
Oui, il est musclé. Il est musclé, il est savant lui aussi.
Il est patient.
Et patient, et il n'a pas trop peur. Ben, faut pas agir n'importe comment, mais ça va, ça se passe bien.
Parce que tu parlais de technicité, enfin de ce rôle de la technicité, c'est une des choses d'ailleurs étonnantes, puisque dans tes trois, alors au risque de surinterpréter un peu, mais dans tes trois prêtresses de Bacchus en fait, donc qui sont dans ce bunker à Hong Kong, dans ces trois bacchantes, il y a deux artistes et il y a une technicienne des explosifs.
Ouais, je ne sais pas s'il y a deux artistes. Il y a effectivement une technicienne des explosifs, une des mineuses, hein, qui a fait ses classes partout où ça pète dans le monde et qui sait très bien mener une équipe. Il y a une artiste, effectivement, la clown, dont on ne sait pas trop quelles sont ses compétences, sauf qu'elle est quand même assez fine connaisseuse en histoire de l'art et en histoire de l'architecture, ce qui peut aider. Quand on est dans un complexe de bunker à 20 mètres sous terre. Et il y a la brune qui, elle, connaît très bien les pierres précieuses, la cristallographie, les filons géologiques et les filières humaines. Donc, on se dit que, tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là ?
Une histoire de diamant de sang et de choses comme ça qu'on peut redouter.
Ouais. Mais c'est ça, ça reste assez discret à l'intérieur de ce roman-là.
Non, mais de toute façon, bon, ça, je le dis, enfin, pour les lectrices ou les lecteurs qui ne connaîtraient pas déjà un ou plusieurs romans de Céline Minard, ce qui serait étonnant, mais si c'est le cas, une des choses magiques en fait dans ce qu'écrit Céline, et pourtant c'est flagrant avec Bacchante, qui est un roman court, qui fait une centaine de pages en fait à peine, et quand on le finit, on a presque aussitôt envie de le relire une deuxième fois. Pour dire, bon, maintenant, voilà, les cartes sont sur la table, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et ça, je trouve que c'est quand même un signe assez fort dans un roman, ça veut dire qu'il y a de l'épaisseur, et l'épaisseur qui est discrète, mais elle est là. C'est-à-dire que, justement, on peut le reprendre, on peut le relire, on peut le lire même une deuxième ou une troisième fois. Il y a des choses qui résistent, et c'est pas dans un esprit uniquement, en tout cas, moi, c'est pas le sentiment que j'ai, c'est pas dans un esprit de défi intellectuel. C'est quelque chose qui est plus, plus rusé, plus fort, enfin plus qui est de l'ordre justement de, il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup de métaphores entrelacées, mais il y a plusieurs épaisseurs en fait, hein, vraiment c'est un magnifique exemple, hein, de ce que, enfin, Günter Grass mais d'autres avant lui en fait appelaient ces oignons littéraires en fait, où plus on en enlève, plus il y a en fait des choses nouvelles et fortes dessous, quoi.
Et ça pique les yeux.
Et ça pique les yeux.
Ça fait pleurer. Ouais. Oui, mais j'aurais pensé aussi aux jactances dans ce long Louise. Tu vois, ça, c'est vraiment une action sorcière. Parce que c'est un braquage, la jactance. La narratrice de ce long, elle croit dans l'action poétique. C'est-à-dire qu'elle va aller braquer un café avec un grand poème qu'elle va déclamer comme ça, en faisant... Bon, et elle cède, si tu veux, avec un revolver.
Rendez-vous,
ce poème. Oui, non, mais elle vient avec son poème, qu'elle dit, effectivement, puis un flingue, parce que ça appuie son propos. Sur les derniers vers, elle fait vlan-vlan, quoi. Donc, Et puis, dans les derniers vers, effectivement, les gens sont sommés de mettre leur portefeuille sur la table et de se tirer. Mais elle voit ça comme une action poétique. C'est une action poétique. Donc il y a un effet sorcier du verbe, là, performatif. Et c'est un effet sorcier. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui me tient à cœur, la langue comme performatif, comme action. Et comme à la fois étant une action et provoquant l'action.
Je me souviens que tu l'avais dit justement, exactement. C'est les premiers mots que tu avais utilisés en parlant de désorceler, en disant que c'était une autre façon d'aborder le fait que la poésie, c'est une parole effective, une parole agissante, en fait. Et parole agissante, j'aime bien ça. Voilà,
parole agissante.
De façon, je trouve plus joli que dire performatif, qui est bon.
Oui.
Mais parole agissante et qu'on retrouve alors, dans son langue louise, mais qu'on retrouve aussi de plus d'une manière dans Bacchante. Hein. Il y a quand même aussi une question, je trouve, de parole agissante.
Oui, bien sûr, puisqu'il y a effectivement un dispositif qui fait une situation qu'elles ont pensée et qu'elles ont pensée pour être efficace, que les flics à l'extérieur soient convaincus que c'est pas que du verbe, etc. Mais ils le sont à partir du moment où ils peuvent plus rentrer. C'est assez simple. Pardon. Donc à partir de ce moment-là où c'est elles qui ont le pouvoir, parce que on ne profite d'un lieu que si on peut y entrer et en sortir. Or il se trouve que ni le propriétaire ni les flics n'arrivent plus à rentrer. Bon, et puis ils sont pas dedans, donc ils ont pas à sortir. Mais et qu'elles ne se posent pas immédiatement la question de sortir, ou leur font croire que elles ne se posent pas cette question-là et qu'elles n'en ont pas envie de sortir, qu'elles vont vivre là des années, siffler toutes les bouteilles. Elles sont trois, il y en a 100 000. Ça laisse de quoi avoir venir. Il y a à manger, bon, tout va bien. Mais effectivement, c'est dans les échanges verbaux. Que se trame véritablement l'action et que la parole agit. Et qu'est-ce que c'est qu'une menace de toute façon, si ce n'est une formulation?
Voilà, donc Les Bacchantes, c'est un livre où la parole agit, enfin pas seulement la parole, mais la parole notamment. C'est un livre donc, voilà, qui se lit, qui se relit, qui se déguste, aussi bien effectivement qu'un bon vin. J'étais certaine qu'on allait dire ça, évidemment, mais voilà, il est question de vin fondamentalement, mais il est question de bien d'autres choses. Et moi, je ne vais certainement pas vous en dévoiler beaucoup plus. En tout cas, vraiment, surtout, lisez ce livre et les autres romans de Céline Minard. Donc, on continuera dans les semaines qui viennent donc à parler de sorcières. Donc, les livres qu'on a évoqués aujourd'hui, y compris donc Bacchante de Céline Minard, sont en vente à la boutique du Groupe Contrôle. On vous retrouve donc la semaine prochaine et on va finir sur une touche musicale en restant dans une atmosphère de sort, donc avec Spellbound de Siouxsie and the Banshees.
Oui.
Du coup, j'avais oublié de te remercier, c'est quelque chose. Et je remercie donc bien chaleureusement Céline Minard d'avoir accepté cette invitation, ça fait très très plaisir. You have no choice, you hear laughter.
contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.